Les informations avec Sonia Bernauer-Mia.
Bonjour, c'est la fin d'un régime jugé anachronique. Le Grand Conseil neuchâtelois a validé ce matin un compromis qui met un terme aux rentes à vie des conseillers d'État. En contrepartie, les membres du gouvernement verront leur salaire légèrement augmenté et recevront des indemnités de départ. La compagnie de transport public neuchâtelois Transen refait parler d'elle au sein du Grand Conseil. Le gouvernement a répondu à une interpellation de députés et il se veut rassurant, Transen n'est pas encore au stade du sursis concordataire. La Chaux-de-Fonds Coire à l'affiche ce soir au Mélèze en Swiss League de hockey sur glace. Un duel qui rappelle de vieux souvenirs. Les deux équipes avaient été promues en Liga au terme de la même saison 99-2000 sans pour autant y rester longtemps. Et le ciel restera gris aujourd'hui. Les averses se feront plus soutenues cet après-midi. Le tout dans une ambiance fraîche. Un changement de régime était nécessaire aux yeux du Grand Conseil neuchâtelois. Le Parlement cantonal a enterré sans opposition, mais avec 5 abstentions, le système des rentes dites à vie des conseillers d'État. Les députés ont accepté un compromis entre différentes propositions qui étaient sur la table. Le salaire des élus du gouvernement sera augmenté pour se fixer à près de 252 000 francs. À cela s'ajoutent des indemnités de départ limitées à un plafond de 9 mois de salaire à raison d'un mois et demi de traitement par année d'activité. Si le sujet a fait beaucoup débat, le plénum était unanime pour mettre fin à ce régime. Evan Finger, député UDC.
Oui, enfin, un vieil anachronisme qu'on avait encore à Neuchâtel. Un bon compromis de commission qui a été trouvé. On est satisfait du vote du jour.
Les solutions trouvées, soit une hausse modérée du salaire et versement d'indemnités en fonction des années de fonction, vous conviennent ?
Oui, complètement. La première position de l'UDC était de militer pour une hausse modérée des salaires du Conseil d'État. Le but, au final, c'est d'avoir une juste rémunération par rapport à leur charge de travail. Il y avait un grand débat de savoir est-ce qu'il fallait beaucoup augmenter ou non le salaire des conseillers d'État. L'augmentation modérée du jour nous convenait amplement. C'était un bon compromis. Le chemin est fait dans les deux parties.
Et par 71 oui contre 27 non, le Grand Conseil a en revanche refusé un amendement du groupe Vert-Pop qui souhaitait fixer le salaire des élus du gouvernement cantonal à un peu plus de 242 000 francs. La députée écologiste Clarence Chollet.
Le groupe Vert-Pop voulait vraiment une hausse très limitée du salaire du Conseil d'État, donc limitée uniquement à la part supplémentaire qu'ils devront verser à la caisse de pension avec la fin de ce régime des rentes à vie. Et donc on s'est opposé à cette hausse, même limitée. Pour nous, auprès de la population, ce n'est pas défendable que le Conseil d'État s'octroie de nouveaux privilèges avec un salaire très élevé. Et donc, on était contre cette hausse. Mais au final, évidemment, vu que la fin du régime de rente à vie nous tenait à cœur, on a accepté ce compromis au final.
Un dossier de Jean-Paul Picci. La nouvelle loi votée devrait être effective pour le ou les nouveaux conseillers d'État élus au printemps prochain. Transen n'encourt actuellement pas un risque de faillite. Le conseiller d'État neuchâtelois Laurent Favre a tenté de rassurer ce matin les élus du Grand Conseil à la suite d'une interpellation. Reste que le canton a dû prêter des fonds à la compagnie de transport public pour assurer ses liquidités financières. C'est ce qui figure noir sur blanc dans la réponse gouvernementale aux interrogations du groupe Vert Libéral Le Centre. L'an prochain, le canton envisage aussi de rehausser le capital de Transen de 20 millions de francs après avoir assaini l'entreprise de transport public. Et Laurent Favre veut appeler un chat un chat.
Bon, la situation n'est pas bonne. Malgré tout, la société n'est pas touchée par l'article 725 CO du Code des obligations qui traite des problèmes de sursis concordataire ou de faillite. Donc on n'en est pas du tout là. J'aimerais rassurer ici la population et surtout le personnel de l'entreprise. Mais il est vrai que le bilan de Transen après les pertes cumulées, Covid, est extrêmement fragile. De ce point de vue-là, ce montant important de quelques 20 millions de francs annoncé par le Conseil d'État, mais ça méritera d'être charpenté, approfondi ces 6 prochains mois dans des travaux importants qu'on va réaliser avec le Conseil d'administration de Transen pour, d'une part, assainir la situation, optimiser encore la société et la reconsolider par cette recapitalisation au niveau du bilan. Ça se conduit en parallèle, cette volonté de, bien sûr, soutenir, consolider, mais aussi d'optimiser.
Le gouvernement neuchâtelois souhaite également analyser les synergies que Transen pourrait mener. Laurent Favre n'exclut pas des collaborations accrues avec les CFF ou avec les chemins de fer du Jura. Il n'y a pas de raison que les Neuchâtelois payent plus cher que les autres. C'est le credo du service cantonal des automobiles et de la navigation qui, pour maintenir ses émoluments dans la moyenne suisse, veut inciter ses clients à venir moins souvent au guichet à Boutevilliers et à utiliser davantage les services en ligne pour que les clients cliquent plutôt qu'ils prennent leur voiture ou empoignent leur téléphone. Le scan utilise l'argument du porte-monnaie. Philippe Burry, directeur du scan.
L'idée, effectivement, c'est d'inciter un peu avec un moyen financier. Pour les factures, c'est un bon exemple. On propose les e-bills actuellement depuis 2009 et on est uniquement à 14% de Neuchâtelois qui utilisent ce moyen. Donc, on a réfléchi aux solutions. On sait que beaucoup d'entreprises pratiquent l'inverse, c'est-à-dire ils pénalisent la facture papier. En tant que service public, on ne veut pas le faire. Donc, pour nous, la solution, c'était de donner 2 francs de réduction à ceux qui utilisent la facture en ligne. On a mis plusieurs améliorations dans les prestations existantes dans le but de les rendre beaucoup plus simples. Si je peux donner un exemple, c'est toutes les prestations qui concernent un permis de conduire. Jusqu'à présent, vous étiez toujours obligé d'envoyer une photo que vous alliez faire dans un photomaton dans lequel vous deviez introduire 15 francs. Et puis actuellement, on a un système qui s'appelle PhotoCollect où on vous envoie simplement un lien et vous pouvez prendre votre photo à votre domicile avec votre smartphone pour 0 francs.
Développer l'utilisation numérique permettra au scan d'économiser beaucoup de papier, lui qui en émet 5 tonnes par an. Et puis à noter que les horaires seront aussi adaptés sur le site du scan à Boutevilliers. Détails à retrouver dans le courant de l'après-midi sur rtn.ch. La Haute École Arc tient son futur directeur. C'est Tristan Maillard qui reprendra les rênes de l'institution active dans les cantons de Neuchâtel, de Berne et du Jura dès le 1er février prochain. Il succédera à Brigitte Bachelard. La nouvelle loi sur le tabac entre en vigueur aujourd'hui. Elle prévoit une interdiction nationale de vente de tous les produits contenant de la nicotine aux moins de 18 ans. Et elle interdit les affiches publicitaires pour le tabac dans l'espace public. Mais la Suisse reste à la traîne en matière de prévention. Elle est le seul pays européen à ne pas avoir ratifié la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. Et c'est le moment de le faire pour Luciano Ruggia, directeur de l'Association suisse pour la prévention du tabagisme.
La Suisse doit ratifier cette convention, donc c'est une convention que la Suisse a signée en 2004. Quand on signe une convention internationale, on s'engage déjà à la respecter dans son esprit, à ne pas aller à l'encontre de la convention. La ratification devrait être un pas plus formel. La pratique suisse, c'est de ratifier une convention internationale quand on a une loi d'application. Maintenant, on aura cette loi d'application le 1er octobre. Elle ne respecte pas tous les principes de la convention, mais la convention, c'est un peu un objectif à atteindre. Même si on ne la respecte pas à 100%, on peut la ratifier, puis on continue à œuvrer pour aller plus loin. Donc oui, il est indispensable de ratifier aujourd'hui cette convention. Ça fait 20 ans qu'on attend.
Et pas de répit pour les glaciers. Malgré un enneigement record l'hiver dernier, la fonte s'est accélérée durant l'été. Les glaciers suisses ont perdu environ 2,5% de leur volume cette année, soit l'équivalent du lac de Bienne. Le réseau suisse des relevés glaciologiques a effectué des mesures sur 20 glaciers le mois dernier et leur déclin se poursuit à un niveau constant sous l'effet du changement climatique. Les précisions de notre correspondante à Berne, Marie Vieumier.
Les années 2022 et 2023 ont été extrêmes pour les glaciers suisses qui ont perdu 10% de leur volume. Mais 2024 s'annonçait plus favorable. Jusqu'en juin, les conditions étaient bonnes avec une neige abondante et un début d'été pluvieux. Mais l'arrivée de poussière du Sahara a accéléré la fonte en colorant la surface du manteau neigeux et en favorisant l'absorption de l'énergie solaire. Il n'a pratiquement pas neigé entre la mi-juin et la mi-septembre, même à 3000 mètres d'altitude, et les températures élevées en juillet et en août ont encore empiré la situation. Sur la Jungfraujoch, le mois d'août a même été plus chaud que lors des canicules de 2003 et 2022. Au mois d'août, la perte de glace a été la plus importante jamais mesurée en Suisse. Et sur l'ensemble de 2024, les glaciers ont perdu environ 2,5% de leur volume, davantage que la moyenne de ces 10 dernières années.
Et l'armée israélienne a lancé une offensive militaire au sol contre le Hezbollah au Liban. Elle a fait état ce matin de violents combats dans le sud du pays. Le conflit prend ainsi une nouvelle dimension après une semaine d'intenses bombardements qui ont fait des centaines de morts. De son côté, Suisse a décidé de prolonger la suspension de ses vols vers et au départ de Tel Aviv jusqu'au 31 octobre. Pour Beyrouth, cette suspension est prévue jusqu'au 30 novembre.
RTN 12h25. Sport.
Le HC Coir est de retour au Mélèze. Le néo-promu est attendu à 19h45 ce soir par le HC La Chaux-de-Fonds lors de la 7e journée du championnat de Swiss League de hockey sur glace. Les deux clubs se connaissent, mais cela remonte à très longtemps, Marcel Lenschwander.
Et oui, l'histoire des duels entre La Chaux-de-Fonds et Coir est riche. Elle ravive des souvenirs de promotion et de lutte contre la relégation au sein d'élite, mais elle date en raison de l'élargissement de la Liga à 12 équipes. Les deux clubs avaient pu rejoindre l'élite du hockey suisse la même saison au terme de l'exercice 99-2000. Le HCC n'y était resté qu'une saison et Coir 2. Il s'en est suivi pour les deux entités d'une période de vache maigre marquée par d'énormes difficultés financières. Le HC Coir n'y survivra pas, déclaré en faillite en 2008 et condamné ensuite à évoluer deux saisons en deuxième ligue sur une patinoire à ciel ouvert. Le HC La Chaux-de-Fonds, lui, parviendra à garder la tête hors de l'eau, relancé ensuite sur le plan sportif grâce à l'arrivée de Gary Sheehan à la barre.
Et 16 ans plus tard, Marcel, le HC Coir est donc de retour dans ce qui s'appelle aujourd'hui la Swiss League.
Oui, le club grison semble aujourd'hui s'être refait une virginité en vue de s'installer durablement en Ligue nationale. Son conseil d'administration comprend des joueurs helvétiques en activité qui sont renommés Nino Niederreiter, Leonardo Genoni. L'ancien skieur Carlo Janka est impliqué, lui, dans la préparation physique d'une équipe entraînée par les frères Reto et Jan von Arx, qui tous deux ont fait les beaux jours de Davos pendant une vingtaine d'années. L'implication d'autant de non-connus traduit bien la volonté du club grison à se reconstruire. Il pourrait à terme enrichir la densité de la Swiss League. Les dirigeants du HC Coir ne paraissent toutefois pas vouloir brûler les étapes. Il y a 2 ans, ils avaient renoncé à la promotion en Ligue nationale, tout comme ils ont renoncé à engager des mercenaires pour cette saison.
Merci beaucoup Marcel pour ce rappel historique. Et puis au classement de la Swiss League, après 6 journées, c'est Bâle qui est en tête avec une unité d'avance sur Viège et 2 sur La Chaux-de-Fonds. Coir est avant-dernier avec 7 points de retard sur le HCC. La Chaux-de-Fonds-Coir, c'est un match à suivre en direct sur RTN ce soir dès 19h30 avec votre commentaire. Et puis Young Boys défie Barcelone au Camp Nou ce soir à 21h lors de la 2e journée de la Ligue des Champions. La mission s'annonce très difficile pour le club de football bernois qui a perdu son match initial 3-0 contre Aston Villa. Les Catalans, eux, ont déjà grillé une cartouche en s'inclinant 2-1 sur le terrain de Monaco. Ils vont donc s'investir à fond pour récolter un premier succès. Très bel après-midi.